Il est 5h30 à Kinshasa. Merci d'écouter RFI. 6h30 à Kigali. 30 minutes d'information africaine tout de suite avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Mais tout d'abord, un dossier sur lequel les diplomates se cassent les dents depuis près de 3 ans maintenant.
La guerre dans l'est de la RDC, à nouveau à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies hier à New York. Mais Kinshasa et Kigali campent pour l'heure sur leur position. La première réclame des sanctions contre son voisin qui, lui, dénonce les groupes armés, dont le FDLR dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, première visite hier à Kinshasa du nouveau médiateur de l'Union africaine, le Togolais Fornia Simba. Un mouvement indépendantiste du Congo-Brazzaville qui annonce un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois. Le FLEC FLAC, le Front de Libération du Cabinda, il soutient une proposition d'autonomie de cette région enclavée. La guerre au Soudan, entrée désormais dans sa 3e année, on l'a entendu sur RFI. Mais quelle perspective pour la paix? Elle semble mince, les belligérants restent déterminés et le risque d'une partition du pays inquiète aujourd'hui. Manifestation hier aux Comores, à Moroni. On dénonce l'idée que Mayotte rejoigne la commission de l'océan Indien sous drapeau français. Le président français Emmanuel Macron est justement attendu dans la région la semaine prochaine. Un danger bien réel, sous les sirènes des promesses de gains énormes. Les paris sportifs prennent de plus en plus de joueurs dans leur piège. Reportage dans cette édition au Sénégal. Un rendez-vous également pour les amoureux du cirque. Les RICA s'ouvrent aujourd'hui, ce sera notre reportage après le journal. Les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. L'actu sport au programme, la Ligue des champions de foot, bien sûr. Soyez les bienvenus sur RFI. Il vient d'hériter d'un dossier pour le moins épineux et le président togolais s'est visiblement mis à la tâche. Fornia Singbe est désormais à la tête de la médiation de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda. Il s'est rendu hier pour la première fois à Kinshasa où il s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le dossier était également sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Wang Xia, revenait justement d'une tournée régionale sur le terrain. Et il s'est dans un premier temps désolé que les injonctions du Conseil, mais aussi celles des organisations africaines ou de l'Union européenne, n'aient pour l'heure pas été entendues. À New York, Kerry Newton.
Même s'il n'est pas venu pour cela, l'envoyé spécial du secrétaire général dans les Grands Lacs a d'emblée regretté que les déclarations d'intention de cesser le feu soient au point mort et que la situation humanitaire se dégrade si rapidement. Toutefois, l'objectif premier de Wang Xia est de transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. Il a rendu hommage au président angolais pour le travail accompli dans le cadre du processus de Luanda et dont il souhaite d'ailleurs que les acquis soient préservés.
Je pense en particulier à l'accord sur un concept d'opération CONOPS pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda qui, s'il est appliqué intégralement, contribuera grandement à la résolution des tensions entre la RDC et le Rwanda.
Wang Xia a aussi salué la désignation du président du Togo comme médiateur de l'Union africaine pour la résolution de cette crise et demandé que les initiatives de paix soient mieux coordonnées entre les différents acteurs. La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a dénoncé une impunité trop ancrée et réclamé des sanctions à nouveau. L'ambassadeur rwandais à l'ONU a redit les protestations de Kigali contre la présence de groupes armés à l'est de la RDC. Karine Auton, New York, RFI.
Et sur le terrain, justement, dans l'est de la RDC, c'est une revendication de l'AFC-M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villes avec le soutien du Rwanda. Selon nos informations, le mouvement politico-militaire a exigé la signature d'un protocole d'accord avec la mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, pour encadrer sa présence dans la zone. C'est l'un des groupes rebelles historiques du Congo-Brazzaville, le Front de Libération de l'État de Cabinda, le FLEC FAC. Il a annoncé lundi un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois jusqu'au 14 juin 2025 à 23h. Cela pour soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA sur l'autonomie du Cabinda. Cette trêve annoncée par le FLEC FAC viserait à créer les conditions d'un dialogue avec le gouvernement congolais. L'enjeu, Lisa Fabian, c'est donc l'avenir de cette région qui est enclavée entre le Congo-Brazzaville et la RDC.
La trêve annoncée par le FLEC FAC vise à créer les conditions d'un éventuel dialogue avec le gouvernement angolais et à laisser une chance à l'initiative de l'UNITA. Ce cessez-le-feu est présenté comme un point d'entrée pour de possibles négociations plus poussées. Le président du mouvement indépendantiste, Emmanuel Nzita.
Depuis des décennies, nous tentons de parler avec les Angolais. Nous avons lancé 4 propositions nous-mêmes Il est bien spécifié dans cette expression de cesser le feu. Toute violation des territoires d'où nous occupons peuvent être objet de légitime défense.
Avec son projet, l'UNITA souhaite consolider la paix et offrir une autonomie politique et administrative élargie au Cabinda. Navitha N'Golo, vice-présidente du groupe parlementaire UNITA, met en avant un processus inclusif et pacifique essentiel.
As populações de várias zonas da província de Cabinda.
Les habitants de la province de Cabinda vivent dans la peur. Ils doivent parfois abandonner leur zone de vie à cause de l'instabilité militaire qui persiste entre les forces armées angolaises et les forces du FLEC-FAC.
Le MPLA, le parti majoritaire en Angola, a réagi. Ses responsables rejettent ce cessez-le-feu puisqu'ils estiment qu'il n'y a pas de conflit armé dans le Cabinda.
Le Cabinda qui discute donc avec le gouvernement angolais. L'inquiétude qui grandit à présent autour d'un risque de partition au Soudan. La vingtaine de pays et d'organisations internationales ayant participé à la conférence organisée avant-hier à Londres appelait à éviter cette fragmentation. Alors que le Soudan entrait dans sa troisième année de guerre et que le général Hemet Tiye à la tête des paramilitaires FSR annonçait la création d'un gouvernement. Un gouvernement rival à celui de Khartoum, soutenu lui par l'armée du général Al-Burhan. Le risque est donc bien réel désormais, pas d'avancée en vue ici Ouda Ibrahim. Les deux belligérants conservent la même ligne.
Dans un discours enflammé, le général Abdel Fattah al-Burhan affirme « Il n'y a pas de place au Soudan pour celui qui s'adresse aux Soudanais depuis l'étranger parlant au nom du peuple. Sans le nommer, il parle de son ennemi, le chef des FSR. Toujours en désignant le chef des forces de soutien rapide, il considère que le pouvoir et la légalité au Soudan reviennent à celui qui résiste, combat et défend la patrie, pas à celui qui complote au service de certaines ambassades avant de fuir. » Ces fuyards, poursuit-il, ne mettront plus jamais un pied au Soudan. Quant au général Mohamed Hamdan Daglo, Hameti, il a brandi à nouveau la menace d'un gouvernement parallèle. Ce général s'est adressé à l'opinion publique moyennant un communiqué diffusé sur le réseau Telegram. Il affirme la formation d'un gouvernement soudanais d'unité et de paix, issu de la coordination civile la plus large et qui représente le vrai visage du Soudan. Toujours selon le communiqué, ce gouvernement se chargera de tous les Soudanais, y compris ceux qui ne sont pas dans les zones contrôlées par les FSR. Il ne donne pas plus de détails sur la composition du gouvernement.
Ouda Ibrahim, une visite en Russie, celle du ministre des Affaires étrangères sud-africain Ronald Lamola, qui a refermé un voyage de 2 jours à Moscou. Il s'est entretenu sur place avec son homologue Sergueï Lavrov. Ils ont souligné ensemble les liens diplomatiques durables entre les deux pays. Le président français attendu quant à lui la semaine prochaine pour sa toute première visite à Madagascar, où il participera au 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien, auquel la France participe au titre de l'île de la Réunion. Mais à quelques jours de l'événement, une manifestation non loin de là, hier, aux Comores, à Moroni. Les manifestants dénonçaient un possible rattachement de l'île de Mayotte à cette commission de l'océan Indien, territoire actuellement administré par la France mais revendiqué par les Comores. La rumeur de la construction future d'une base navale française à Mayotte a également agité les réseaux sociaux dernièrement. L'ambassade de France à Moroni a officiellement démenti. Mais cela ne calme manifestement pas la colère, Abdallah Mzembaba.
Pour les manifestants, le message est clair. Mayotte est comorienne et ne peut pas siéger à la COI comme territoire français. Mohamed Bonjoin, président du comité maori, milite pour le retour de l'île dans l'Union des Comores.
Nous ne voulons pas que demain Mayotte intègre la COI sous son propre nom et comme entité distincte, alors que l'île fait déjà partie de l'organisation à travers son appartenance à l'Union des Comores. Cela, nous le savons tous. Vous savez que nous sommes dans notre bon droit et quand on a raison, on finit toujours par obtenir gain de cause.
Présent à la manifestation, Maître Ibrahim Ali Mzimba invite à suivre l'exemple de Maurice face au Royaume-Uni et à revoir la stratégie vis-à-vis de Paris.
La diplomatie bilatérale.
La diplomatie bilatérale a montré ses limites. Il est temps de changer de cap. Mettons fin à cette coopération économique trompeuse. Instaurons uniquement des relations consulaires, fermons l'ambassade française et ses antennes ici et procédons de même avec notre ambassade à Paris.
Au sein de la commission de l'océan Indien, chaque décision requiert l'accord de tous les membres. La position des Comores suffit donc à elle seule à geler toute tentative d'intégration de Mayotte dans la COI comme territoire français. Abdallah Mzembaba Moroni, et RFI.
C'est une addiction comme les autres, dangereuse. L'addiction aux jeux, aux paris sportifs notamment. On le voit ce matin avec un reportage au Sénégal, à Dakar, où des dizaines d'applications de paris existent. Et les conséquences peuvent être graves pour les joueurs, Juliette Dubois.
Auparavant cantonnées aux petites boutiques de rue appelées Narbi en Wolof, les jeux de paris sportifs sont désormais dans les smartphones de tous les Sénégalais. Les applications sont nombreuses, OneXBet, BetClick, SunuBet. Saïdina a commencé à jouer pour passer le temps.
En tant que jeune, quand on est en période de chômage et tout, on est susceptible de tomber sur les tentations et tout. Au début, tu mises de petites sommes, tu te dis que voilà, je mise 1000 francs, 500 francs, je peux gagner minimum 50 000, 100 000 francs.
Il y a deux ans, Saïdina a créé une association non aux paris sportifs pour sensibiliser et aider les personnes accros au jeu. Il reçoit de nombreux témoignages de jeunes qui s'isolent et mettent du temps avant de se rendre compte du danger, comme cet homme.
J'ai pris mes distances avec ma famille, car ils n'approuvaient pas le fait que je joue au paris sportif. Aussi, j'ai emprunté beaucoup d'argent. Ma vie sociale, ça a vraiment cassé ma vie sociale, quoi. À la fin, j'ai compris que c'était une vraie addiction et c'était vraiment difficile pour moi d'en sortir.
Le neveu d'Amadou, lui, a dépensé plus de 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros en 5 ans. Il a pris dans les caisses de l'entreprise de son père et emprunté à des partenaires commerciaux.
Je lui remettais des conteneurs à vendre et il m'a remboursé pratiquement en 90 jours ou bien en 60 jours. Je ne parvenais pas à bien procéder au recouvrement pour l'obtention de mes fonds. Donc, son père m'a dit que pas le seul parce que beaucoup de gens viennent ici réclamer de l'argent à Moustapha et moi, je ne sais pas ce qui arrive.
Des familles bouleversées, des dépressions. Saïdina essaye d'attirer l'attention des autorités depuis qu'il a créé son association, en vain. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 4h passées de 41 minutes, même heure en temps universel.
Afrique Matin, sur RFI. Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, sur RFI. Dans un petit peu plus de 18 minutes, RFI Matin avec Andréane Mellard. Mais d'abord, notre reportage sur la 7e édition des RICA, les rencontres interculturelles du cirque qui s'ouvrent aujourd'hui à Abidjan. Mais avant cela, après cela, comment ramener la paix dans l'Est de la RDC? Cette question qui anime les diplomates en ce moment. On en parlera avec notre invité Pierre Boisselet, responsable de recherche à l'Institut Ebouteli. La diversification de l'économie du Congo-Brazzaville pour notre dossier Afrique Éco. Avec les zones agricoles protégées, on ira visiter celle de Bouamsa. Les politiques et leurs ficelles passées au crible ensuite de Maman et de son humour. Mais d'abord, c'est l'actu sport qu'on passe au crible. Et c'est avec vous Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
De la Ligue des champions de foot, bien sûr, au programme. Et pas de remontada ici, le Real Madrid, tenant du titre, prend la porte en quart de finale.
Les Madrilènes incapables d'inverser la situation face à Arsenal et pire, battus à domicile 2-1 par les Gunners après la déroute du match aller 3-0. Arsenal tout simplement meilleur qu'un Real bien loin de son niveau cette saison. C'est l'analyse lucide du gardien belge Thibaut Courtois.
Cette année, on n'a pas eu notre meilleure année. Je crois qu'on a eu trop de bas et pas assez de haut. Et parfois, on doit accepter ça, qu'on n'a pas fait notre meilleur jeu contre les grandes équipes d'Europe. On a eu trop de défaites et on doit analyser ça, être autocritique et penser ce qu'on peut faire mieux. Et il reste encore des jolis trucs cette saison et on doit essayer de améliorer, que chaque joueur se regarde à lui-même et dit qu'est-ce que je peux faire mieux pour l'équipe. Et là, on verra comment on termine et comment ça améliorer.
Thibaut Courtois avec Thomas de Saint-Léger dans l'autre quart de finale. Un autre ténor, le Bayern Munich a chuté face à l'Inter Milan. Battu 2-1 à l'aller, le club bavarois n'a pu faire mieux qu'un nul de partout au retour.
Et ce soir, place au quart de finale retour des autres Coupes d'Europe, Antoine, avec le retour d'André Onana, notamment dans les buts de Manchester United.
Le gardien camerounais est passé complètement à côté de son quart de finale aller. Deux erreurs sur les deux buts lyonnais qui avaient poussé son entraîneur à ne pas le convoquer pour le match de championnat contre Newcastle. Mais la mise à l'écart n'était que temporaire et Onana sera bien dans les buts mancuniens pour le quart retour à 19h, temps universel. Les autres quarts, Bilbao, Glasgow Rangers, Eintracht Francfort, Tottenham et Lazio Bodoglimt.
Et en Ligue Europa Conférence, Antoine, c'est Cédric Bakambu et le Betis Séville qui visent les demi-finales.
Bien embarqués après leur succès 2-0 à domicile contre le Jagiellonia Bialystok, les Sévillans sont en déplacement dans l'est de la Pologne et ils compteront sur leur homme providentiel, le Congolais Cédric Bakambu. Pourtant, cantonné à un rôle de remplaçant en championnat, Sofiane Amazian.
C'est tout le paradoxe vécu cette saison par Cédric Bakambou. Décisif lors du quart de finale aller contre Bialystok, le buteur de 34 ans porte désormais son total de réalisations en Ligue Europa Conférence à 6, soit 2 de moins que le natif de Luanda, Afimiko Pouloulou, meilleur artificier de la compétition. Buteur lors de 4 des 5 derniers matchs de Coupe d'Europe cette saison, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille est un des premiers noms cochés par l'entraîneur Manuel Pellegrini depuis la fin d'année 2024. Un retour en forme salué par le coach chilien.
Cédric Bakambou s'entraîne très bien depuis plusieurs semaines déjà. Je le sens plus concerné, plus en phase avec les objectifs du club. Il s'est bien remis de sa longue blessure, il se sent mieux physiquement. Il faut que son implication se convertisse en but pour son équipe.
Cette saison, Bakagol n'est pas aussi tranchant que dans ses belles années. Seulement 9 buts marqués en 34 apparitions et une longue blessure qu'il a tenue loin des pelouses jusqu'à la mi-septembre 2024 et dont il a fallu se remettre. Résultat, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise avec 16 buts se contente d'un rôle de remplaçant en championnat barré successivement par le Brésilien Vitor Roque, puis le jeune Cucho Hernandez depuis février. Difficile de se faire une place chez l'actuel 6e de la Liga, le salut passe donc par la Ligue Europa Conférence pour Bakambou qui est devenu le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe sur une saison.
Bialystok, Betis, Séville, 16h45 temps universel, à la même heure que Fiorentina Cellier et avant Chelsea Legia et Rapid Vienne New Garden à 19h TU.
Et bien le rendez-vous est prix. Merci Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure sur RFI. En attendant, 4h46 en temps universel, un coup d'œil rapide sur l'actualité internationale. Et Giorgia Meloni qui est attendue à Washington aujourd'hui. La chef du gouvernement italien est pressée par Bruxelles de parler au nom de ses partenaires européens sur les droits de douane. Dans ce contexte de guerre commerciale internationale, justement, entre les États-Unis et la Chine notamment, eh bien le président de la Fed, la Banque centrale américaine, Jerome Powell, estime que cela va très certainement entraîner au moins une hausse temporaire de l'inflation. Wall Street a clôturé en nette baisse hier soir. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, à Paris aujourd'hui pour des discussions sur l'Ukraine notamment. Négociations initiées par les États-Unis en vue d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Elles progressent difficilement. Les entretiens devraient également porter sur la situation au Proche-Orient et le dossier du nucléaire iranien. Et puis l'armée israélienne qui annonce avoir transformé en zone tampon 30% de la bande de Gaza où elle poursuit son offensive. Eux en font tout un cirque et cela pour le plus grand bonheur de leurs spectateurs. Notre reportage ce matin sur l'ouverture des RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. La 7e édition débutera ce soir à l'Institut français de la capitale économique ivoirienne. Mais le festival se délocalise aussi et il est porteur de messages. À Bafretou notamment, dans le nord-ouest ivoirien, là où doit naître le plus gros projet de mine d'or du pays, baptisé Koné. La troupe Ivoire Cirque Décalé propose un spectacle sur l'orpaillage clandestin. Frédéric Gara l'a vu pour nous.
Ce matin, tous les villageois de Bafretou sont réunis devant l'école primaire sur la Grande Place. Face aux 5 acrobates qui jouent leur numéro intitulé « Les assoiffés du métal jaune », il y a aussi le préfet de Kani, un préfet qui met en garde contre les dangers de l'orpaillage clandestin et notamment de la pollution au mercure.
Vous savez, avec l'orpaillage clandestin, il y a des produits qui sont utilisés. Et ces produits sont dangereux.
La pièce, conçue par Herman Nikoko Yao, est faite de numéros de haute voltige et d'une bande sonore où l'on entend les témoignages d'orpailleurs clandestins évoquant leur calvaire.
Avec les jeunes, les cadres discutaient de ça, de leurs amis qui étaient à Abidjan sans emploi et puis qui ont fait tout à Bandoukou, qui sont venus 6 mois après, qui avaient changé de vie. Donc c'est comme ça que le questionnement est né. Après, on a eu plein de témoignages. Ouais, je pense que le projet, on l'a vraiment construit dans un esprit de sensibilisation. Parce qu'en fait, c'est un fléau qui touche beaucoup de jeunes Abidjan. On ne sait pas d'où la richesse vient. Et ça a commencé à attirer beaucoup de jeunes aussi vers les régions comme Boundiali, Boafle. Donc le danger que courent ces jeunes, à ne pas les encourager. Mais en même temps aussi, essayer de faire juste un petit rappel à l'État aussi, voilà, pour qu'ils puissent aider vraiment ces jeunes-là.
Pierre Nguessan est le directeur pays de la société Montage Gold qui a permis cette délocalisation du festival de cirque pour sensibiliser enfants et parents de la région. Là où doit naître le plus grand projet industriel orifère du pays, le projet Koné.
Le gros problème qu'on a avec les enfants, c'est qu'ils se déscolarisent très vite. À partir du CM2, quand ils ont 11 ans, 12 ans, ils quittent l'école et ils viennent à l'orpaillage pour commencer à creuser. Donc nous voulons, avec le cirque, les amener à voir qu'il y a autre chose, les détacher de l'activité pour que, dès maintenant, ils se préparent à embrasser d'autres activités que l'orpaillage.
Un spectacle de sensibilisation qui parle aux oreilles d'Adama Koné, le chef du village de Bafritou.
Oui, c'est très très utile. Ça montre que vraiment c'est que le travail qu'on faisait avant ici, vraiment c'est pas normal. Bon, c'est ça qu'ils sont en train de faire pour montrer aux gens qu'on a qu'à collaborer ensemble.
Valérie Bonny, chargée de la communication du festival des Rika à Abidjan.
C'est là aussi qu'on voit que le cirque est adaptable. Là par exemple cette année aussi, on va à l'hôpital Mère et Enfant pour jouer pour les enfants qui sont malades. Donc c'est vraiment dans l'ADN d'Erika de délocaliser hors des salles pour faire connaître le cirque et le spectacle vivant.
Frédéric Gara, de retour de Bafretou, RFI.
Notre reportage à l'occasion des rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan. 7e édition à partir de ce soir. Spectacle d'ouverture à l'Institut français. Comment faire taire les armes pour de bon dans l'est de la RDC? Comment rapprocher les voisins congolais et rwandais? Le président togolais, Fornia Singbe, a-t-il plus de chances de réussir avec la médiation de l'Union africaine que son prédécesseur, l'angolais Joao Lourenço? Ou cela viendra-t-il peut-être du Qatar, qui a réussi à réunir les présidents rwandais et congolais autour de la table le 18 mars à Doha? Beaucoup de questions, vous le voyez, qui se posent dans ce dossier. Pour les évoquer, on reçoit justement ce matin Pierre Boisselet, responsable des recherches sur les violences en RDC pour l'Institut Ebouteli. Christophe Boisbouvier lui a tout d'abord demandé si cette rencontre, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, le mois passé, n'était pas finalement un succès sans lendemain.
Alors, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour l'affirmer, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément embrayé avec un processus très convaincant, je dirais. On sait que depuis, il y a eu des délégations du M23 et du gouvernement congolais qui devaient se rencontrer à Doha pour poursuivre sur la lancée du sommet. Mais à ce stade, il y a vraiment peu d'écho. Il semblerait qu'il y ait assez peu d'avancées dans ces discussions qui ont donc suivi le sommet.
Dernière surprise, c'était le week-end dernier. L'Union africaine a désigné le président Togolais, Forné Sinbé, comme nouveau médiateur. Est-ce que Joao Lourenço se heurtait à la méfiance de Paul Kagame, ce qui n'est peut-être pas le cas du nouveau médiateur togolais?
Alors, ce qui est certain, c'est que le Togo entretient de très bonnes relations avec le Rwanda, ce qui était peut-être un peu moins le cas de Joao Lourenço. Donc ça peut être un point positif.
Forné Sinbé s'entend bien aussi avec Félix Tshisekedi?
Oui, il semblerait. Et donc, l'arrivée fracassante du Qatar dans cette médiation n'avait pas forcément été anticipée par l'Union africaine et l'a quelque peu marginalisée. Donc probablement qu'il s'agit de replacer l'Union africaine dans cette médiation.
En allant chercher un pays en Afrique de l'Ouest, très loin du théâtre des opérations?
Oui, notamment. Alors c'est vrai que contrairement à Joao Lourenço, le président togolais ne siège dans aucune de ces deux organisations que sont la SADC et l'EAC. Et donc ça pourrait lui donner un avantage en termes de neutralité. Mais peut-être que la difficulté, par contre, ça sera pour le président togolais d'arriver à convaincre les deux présidents d'arriver à se comprendre. Promis, on ne voit pas forcément de quels moyens de pression ils disposent pour leur tordre le bras et y arriver.
Pierre Boisselet, responsable de recherche à l'Institut Ebouteli, invité de Christophe Boisbouvier ce matin sur RFI. On retrouvera son analyse un peu plus en longueur dans une cinquantaine de minutes vers 7h45, heure de Paris. Mais d'ici là, comment le Congo-Brazzaville entend diversifier son économie avec l'agriculture? On y part tout de suite au Congo-Brazzaville et pour le comprendre, on va à Bouansa, dans le sud du pays, l'une des zones agricoles protégées lancées par le gouvernement en 2021. Celle-ci est consacrée à la culture du maïs et c'est l'heure de la première récolte cette année. Sur place, dossier Afrique Éco de Loïcia Martial.
Dans la plaine de Bouansa, les paysans de la zone agricole protégée, tous de vert vêtus, observent le travail de la moissonneuse-batteuse sur près de 60 hectares de maïs. La superficie étendue a été cédée par l'État aux agriculteurs de la région pour qu'ils y plantent la céréale. L'un d'eux, Alain Roger Mabika, a été désigné président de la zone agricole protégée. Il espère que les rendements progresseront avec les années.
Bien, ici nous n'avions produit que le maïs, rien d'autre que le maïs. En dehors du maïs, nous n'avons rien produit d'autre. L'estimation, on peut dire, déjà par hectare, tel que je vois là, par hectare nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes que nous pouvions donc avoir ici. Et donc, c'est pour nous une façon d'aider ceux-là qui font de l'industrialisation.
Après la récolte, le maïs est stocké dans un endroit bien protégé. Il sera ensuite vendu aux sociétés brassicoles et aux éleveurs qui en manquent souvent. À ce jour, les importations d'alimentation humaine et animale sont évaluées à 600-700 milliards de francs CFA. près de 300 agriculteurs ont planté du maïs à Bouansa.
Nous produisons beaucoup ici. Nous ne sommes pas des fainéants. Avec la main, nous travaillons et nous avons vraiment de la bonne production.
On plante le maïs pour nous soutenir. Ça nous aide, ça nous donne l'argent.
Les zones agricoles protégées ont déjà commencé à produire du manioc, des bananes, des tomates et du riz dans d'autres régions du Congo. Ce dont le président de la République s'est félicité à Bouansa.
Merci Mingi.
Merci de la façon dont vous avez suivi l'initiative lancée lors de la campagne électorale passée. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Merci Mingi.
À travers les zones agricoles protégées, les autorités espèrent lutter contre le chômage, contre la sous-alimentation et diminuer la facture des importations alimentaires. Loïcia Martial, de retour de Bouansa, RFI.
Allez, avant de retrouver RFI Matin avec Andréane Mélard dans un peu plus de 4 minutes, l'humour de Maman sur RFI qui nous parle ce matin des politiques et de leurs ficelles. Car selon vous, Maman, quand tout change au Gondwana, on s'accroche finalement à un concept bien utile. Oui, on s'accroche aux valeurs traditionnelles du dialogue.
Oui, dans chaque société, il y a des mots, des expressions qui, depuis des années, voire des décennies, des siècles, sont répétées à longueur d'interviews, discours, publications, conversations, jusqu'à irriguer le langage quotidien. La très très démocratique République ne fait pas exception parce qu'on y a une expression qu'on a toujours entendue par ici depuis toujours dans la bouche des autorités de ce pays. Soyons fiers des valeurs de dialogue et de solidarité du Gondwana. Voilà, partout où tu dirigeras ta télécommande, mon ami, dès qu'apparaît un ministre, un honorable, un notable, en tout cas quelqu'un en haut, tu peux parier qu'à un moment donné, tu l'entendras rappeler les valeurs de dialogue et de solidarité du Gondwana. Tu peux pas y échapper, hein, mon cher ami. Partout, tes oreilles croiseront ces mots, valeurs, dialogue, solidarité. Ils ont tôt fait de faire le tour des conversations entre Gondwanais, génération après génération, pour entrer dans le patrimoine national, à côté de l'hymne national, le drapeau et la devise du Gondwana. Gondwana, loyauté, allégeance, prison. Cette expression est conjuguée à tous les temps, toutes les personnes, toutes les sauces. Oui, nous sommes un peuple de dialogue et de solidarité. Il n'y aura jamais la guerre chez nous. Nous aimons le dialogue. Voilà, c'est avec cette belle antienne que les Gondwanais se flagellent quand le navire a l'air de tanguer, quand les nuages semblent s'amonceler au-dessus de notre beau pays, si fier de ses valeurs de dialogue et de solidarité. Ne pense pas, mon ami, que nous devons cette phrase à une agence de communication payée très 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 cher. Non, détrompe-toi. Elle a été concoctée par le meilleur communicant du Gondwana, celui qui connaît les Gondwanais comme sa poche, son excellence président fondateur. Ben oui, après avoir assis son pouvoir, rempli ses poches et rassasié ses proches, pendant que le Gondwanais lambda serrait sa ceinture d'un trou supplémentaire, harassé par la hausse des prix des denrées de première nécessité et la baisse fatale de son pouvoir d'achat, eh ben président fondateur a levé la tête de son assiette, intrigué par le grondement qui montait des bas-fonds de Gondwana City, notre belle capitale. C'est là qu'il a commencé à marteler son credo. Soyons fiers de nos traditionnelles valeurs de dialogue et patati et patata. Dès que quelqu'un haussait un peu la voix pour crier qu'il avait faim ou bien qu'il voulait un peu de liberté, eh bien, président fondateur envoyait Sergent s'en fout la mort des autres pour lui faire une explication de texte à coup de rangers sur les traditionnelles valeurs de dialogue et de solidarité qui régissent notre beau pays. Des opposants qui veulent s'opposer, mais les valeurs, n'oubliez pas les valeurs. Des rebelles en voie de rébellion, l'armée gondwanaise se charge immédiatement de leur rappeler le dialogue et la solidarité. Voilà, le Gondwana est un pays de dialogue, ne l'oubliez jamais, hein. À lundi.
Eh oui, à lundi prochain, Maman, car demain c'est Charlotte Ntamack qu'on retrouvera comme tous les vendredis sur RFI. En attendant, moi, je remercie dès à présent Ryan Bois qui était à la réalisation derrière la vitre. Merci à Pierre Pinto à la rédaction en chef. Merci à vous, surtout bien sûr, pour votre fidélité. Ça nous fait toujours plaisir de vous savoir à l'écoute. On salue d'ailleurs ce matin Valentin Bossard qui nous écoute attentivement depuis Kisangani en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse afriquematin@rfi.fr. On l'en remercie. Restez avec nous sur RFI tout de suite. C'est RFI Matin qui débute avec Andréane Mélard, bien sûr. Bonjour Andréane.
Bonjour Sébastien. Bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue RFI, on est ensemble jusqu'à 10h et ce matin au programme, notamment Gaza, l'Ukraine. mais aussi de ses visites dans le monde. Giorgia Meloni à Washington, Forni à Simbé à Kinshasa, c'était hier, Xi Jinping au Cambodge. Le Cambodge où ce jeudi marque les 50 ans de la chute de Phnom Penh aux mains des Khmers Rouges, début d'un régime de terreur et de sang. On en parle avec notre invité ce matin à 8h20. Merci à vous d'être là. Dans une minute, le journal.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
Il y a 50 ans, le 17 avril 1975 marquait le début du génocide cambodgien perpétré par les Khmers Rouges. Au Forum des images de Paris, un cycle de cinéma, conférences et expositions rend hommage à ses victimes. Nous recevons sa commissaire, Soko Fai, et le dessinateur Serra.
Sur le Pont des Arts, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.